président iranien entame une tournée inédite dans trois pays d'Amérique latine, le CCGP appelle à une action internationale contre la colonisation des territoires occupés par Israël et un total de 22 terroristes ont été neutralisés dans une opération antiterroriste menée par l'armée burkinabé dans la région du Sahel. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a quitté Téhéran lundi 12 juin dans la matinée pour une tournée dans trois pays d'Amérique latine qui se distinguent par leur position anti-hégémonie et anti-unilatéralisme. Lors d'une courte interview lundi, avant de commencer sa tournée de 5 jours et qui le mènera au Venezuela, au Nicaragua et à Cuba, le président iranien a déclaré que les relations de l'Iran avec ces pays ont toujours été cordiales au cours des dernières années, car ils partagent des points de vue communs sur les principales questions internationales. S'opposer au système hégémonique mondial et à l'unilatéralisme constitue notre position commune, a déclaré le président, ajoutant que l'Iran coopère avec ces pays dans de nombreux domaines. L'exportation de main-d'œuvre technique et d'ingénierie fait partie de notre domaine de coopération important. Nous coopérons également avec les pays d'Amérique latine dans les domaines de la politique, de l'énergie, de la science et de la technologie, de la médecine et de l'économie. Le président iranien a affirmé que son voyage intervenait à l'invitation des présidents des trois pays. Ce sera un tournant dans le développement des liens de Téhéran avec Caracas, Managua et La Havane. Ailleurs dans ses remarques, le président iranien a déclaré que profiter des potentialités qui existent en Iran et dans les trois États latino-américains peut conduire à une nouvelle expansion de leurs relations stratégiques. Il s'agit du 13e voyage de M. Raisi à l'étranger en près de 2 ans depuis qu'il a été élu président. Lors d'un entretien téléphonique le 11 juin, les ministres des Affaires étrangères iraniens et qataris ont échangé leurs points de vue sur les questions d'intérêt commun et les derniers développements dans la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré à son homologue qatari, le Sheikh Mohammed bin Abderrahman bin Jassim Al-Thani, que Téhéran et Doha devaient renforcer leurs relations bilatérales. Amir Abdollahian a déclaré que le Qatar jouait un rôle positif et constructif dans les relations bilatérales et régionales. Pour sa part, le ministre qatari a salué les relations amicales de son pays avec la République islamique d'Iran. Un membre des forces de l'ordre iranienne a été tué et un autre blessé dans une attaque à la voiture bélier dans la ville d'Izeh, dans la province du Khuzestan, dans le sud-ouest de l'Iran. L'officier identifié comme étant Mohammad Rabali était de garde à l'entrée de la ville à la suite d'appels à manifestations soutenus par l'étranger à Izeh à l'occasion du 10e anniversaire de Kian Pir Falak, l'une des personnes tuées par des terroristes armés lors des émeutes de 2022. Ce soir, une voiture avec une identité spécifique à l'un des points d'entrée de la ville a délibérément et rapidement percuté les agents déployés au poste de contrôle et l'un des agents a été tué en martyr sur les lieux, a annoncé l'agence de presse Mizan, affiliée au pouvoir judiciaire iranien. Ensuite, il a fait demi-tour avec sa voiture, blessant un soldat. Lui-même a été abattu par les officiers. Il est décédé après avoir envoyé à l'hôpital, ajoute la source. Les médias iraniens ont révélé l'identité de l'agresseur comme Pouya Molairat, le cousin de la mère de Kian Pirfala qui se trouvait dans un cimetière dans lequel l'enfant de 9 ans avait été inhumé pour célébrer son anniversaire. Kian a été l'une des 7 victimes de tirs aveugles sur des personnes et des forces de sécurité par des terroristes lourdement armés soutenus par l'étranger à un carrefour majeur à Izeh le 16 novembre 2022. Les ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe Persique, le CCGP, ont fermement condamné les plans d'Israël de construire de nouvelles colonies dans les territoires palestiniens occupés, appelant à une action internationale pour mettre fin à ces plans. Les ministres des Affaires étrangères ont exprimé leur condamnation lors de la 156e réunion ministérielle de l'organisme à Riyad, la capitale saoudienne, dimanche. Les ministres ont rejeté les tentatives du régime visant à annexer les colonies ou imposer sa souveraineté sur elles, affirmant que ces mesures sont contraires aux résolutions adoptées par les organisations internationales, notamment la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution qui a été adoptée en décembre 2016 décrit les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée et à Rots comme une violation flagrante du droit international. Les ministres des Affaires étrangères du CCGP ont également exhorté la communauté internationale à faire pression sur le régime d'occupation pour qu'il revienne sur sa politique de colonisation. Ils ont réaffirmé leur soutien à la souveraineté du peuple palestinien sur les territoires occupés, appelant à la création d'un État palestinien indépendant avec Rots-Est comme capitale. En France, le vice-président du parti à l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, a annoncé dimanche 11 juin que les députés de son camp voteraient lundi la motion de censure déposée par la NUP pour que la première ministre Elisabeth Borne s'en aille avec sa réforme des retraites sous le bras. Dénonçant un coup de force antidémocratique, l'alliance de gauche NUP, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, a riposté, indique le journal Libération, par une motion de censure après l'échec jeudi d'une tentative d'abrogation de la retraite à 64 ans qui n'a pas pu faire l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale. Les 88 députés du Rassemblement national seront là pour voter la motion de censure parce que nous voulons la fin de ce texte, a expliqué le député du Nord à RTL, Le Figaro LCI. Nous voulons qu'il y ait un vote, car il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale sur les retraites, a-t-il ajouté. Il ne s'agit pas d'une alliance avec LFI, la France insoumise, mais nous avons déjà démontré que nous étions capables de voter une motion de censure déposée par d'autres, a encore souligné le parlementaire. Interrogé sur les chances de réussite de cette motion, il a répondu « C'est possible, la dernière fois, il a manqué 9 voix. Tout dépend des Républicains ». Comme le rappelle le journal, une précédente motion de censure du groupe LIOT, groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire, qui rassemble plusieurs députés du centre-gauche et du centre-droit, avait échoué de peu en mars. À 9 voix près, 19 députés LR, les Républicains, sur 61 avaient voté la censure après le recours au 49,3 par la première ministre Elisabeth Borne pour faire passer la réforme. Mais la donne a changé, juge Aurélien Pradier, qui ne pense pas voter la motion lundi. Elle est déconnectée du sujet de la réforme des retraites. Plus tôt le jeudi 8 juin, le groupe parlementaire LIOT, Liberté indépendant Outre-mer et Territoire, a annoncé le retrait de son texte à l'Assemblée. Un total de 22 terroristes ont été neutralisés samedi 10 juin dans une opération antiterroriste menée par l'armée burkinabé dans la région du Sahel, a annoncé dimanche l'armée dans un communiqué. Une patrouille de reconnaissance du détachement militaire de Djibo a conduit samedi une opération d'opportunité visant un groupe de terroristes dans la localité de Fetokoba, au nord-est de la ville de Djibo, au Sahel, a précisé l'armée dans le communiqué. Surpris par la puissance de feu des unités combattantes, les terroristes ont tenté de s'enfuir sans succès. Au bilan, 22 terroristes ont été tués et leur armement récupéré, a indiqué l'armée. Selon la même source, d'importantes quantités de munitions, des détonateurs et des explosifs ainsi qu'une douzaine de motos et des moyens de communication ont été saisis. Vendredi, plus de 20 terroristes ont été neutralisés dans une série d'embuscades tendues par l'armée burkinabé contre des groupes de terroristes dans le centre nord du Burkina Faso, selon l'armée. La crise sécuritaire que le Burkina Faso connaît depuis 2015 a occasionné un déplacement massif de population en proie à une crise humanitaire, selon les organismes humanitaires. Le président tunisien Kais Saied a reçu ce dimanche au palais de Carthage, banlieue nord de Tunis, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ainsi que la première ministre italienne et le premier ministre néerlandais. Les trois hauts responsables européens sont arrivés samedi en Tunisie dans le cadre d'une visite officielle. Cette réunion, rapporte la presse locale, sera consacrée à des discussions portant sur des dossiers prioritaires pour la Tunisie et sur des questions d'intérêt commun entre la Tunisie et l'Europe, qui représente le premier partenaire économique de la Tunisie. Pas moins de 70% des échanges commerciaux se font avec l'Europe. Les discussions oscilleront en particulier autour de trois axes principaux, à savoir la situation actuelle en Tunisie, y compris les négociations avec le FMI, la lutte contre la migration irrégulière, ainsi que le partenariat dans le domaine énergétique. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. L'Iran et l'Amérique latine ont un point commun, la résistance à l'hégémonie américaine. À la tête d'une délégation de haut rang, le président iranien Ebrahim Raisi entame lundi 12 juin une tournée dans trois pays, au Venezuela, au Nicaragua et à Cuba, pour renforcer la coopération politique, économique et scientifique avec les trois pays d'Amérique latine, conformément à la politique étrangère pragmatique de son gouvernement. L'Iran et les trois pays d'Amérique latine que le président Raisi doit visiter partagent une expérience commune de résistance à l'hégémonie américaine et sont à l'avant-garde de la création d'un ordre mondial fondé sur des règles. L'histoire cubaine moderne est très similaire à l'histoire iranienne. La révolution cubaine a été menée en réponse à un régime dictatorial corrompu pro-américain installé par un coup d'État qui a exploité le peuple cubain de multiples façons. L'Iran et Cuba, deux États favorables à la résistance, faisaient partie de la poignée de pays qui s'opposaient résolument à la politique américaine, même dans les années 1990, lorsque la puissance de la superpuissance était à son apogée. La coopération entre les deux pays dans divers domaines a inspiré de nombreux pays et a rejeté le mythe selon lequel le progrès ne peut être réalisé qu'en acceptant l'hégémonie américaine. Le Nicaragua a également une histoire similaire avec les politiques hégémoniques américaines, les dictateurs plantés et les révolutionnaires qui ont réussi et qui sont à la barre aujourd'hui. Depuis 1985, date à laquelle Washington a interdit le commerce bilatéral avec le pays, les sanctions contre le Nicaragua se sont progressivement renforcées. Le Venezuela, quant à lui, a une expérience similaire. Le pays riche en pétrole, comme l'Iran pré-révolutionnaire, était censé être une vache à lait, selon les plans américains. Les coups d'État antidémocratiques ratés ont été suivis des années de sanctions sévères. Depuis la révolution islamique, l'Iran entretient des relations amicales avec les trois pays d'Amérique latine, qui sont également membres du mouvement des non-alignés. Mais leur coopération économique plus intensive a commencé dans les premières années du XXIe siècle. À l'époque, l'Iran avait établi une relation étroite avec le Venezuela d'Hugo Chavez, dont l'idéologie bolivarienne s'alignait sur les valeurs défendues par la République islamique, ainsi qu'avec la Bolivie d'Evo Morales, l'Équateur de Rafael Correa et le Brésil de Lula da Silva. En 2008, l'Iran est devenu membre observateur de l'Alliance bolivarienne pour peuples de notre Amérique, ALBA, une organisation intergouvernementale basée sur l'idée d'intégration politique et économique des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. La différence entre l'unipolarité et la multipolarité est la même qu'entre la dictature et la démocratie. Les expériences que les quatre pays partagent avec l'hégémonie américaine démontrent parfaitement les pires côtés de l'unipolarité. Ils n'ont pas été sanctionnés en raison d'une quelconque faute, mais parce que le peuple a rejeté les dictateurs imposés par les États-Unis et leur rôle politico-économique prédéterminé des pions sur l'échiquier mondial imaginé par Washington. Un tel monde imaginaire que les États-Unis appellent l'international est lui-même intrinsèquement antidémocratique car il ne représente pas les intérêts du peuple américain, mais les intérêts de puissantes entreprises et de lobbies de trafic d'influence. Le monopole de l'Amérique sur la politique mondiale, la technologie, le commerce et la finance a été utilisé pour des tentatives malveillantes de transformer des pays indépendants en États défaillants, ce qui a à son tour affecté les gens ordinaires de ces pays, les privant de leurs besoins fondamentaux. L'unipolarité est donc empiriquement contre la démocratie, l'humanisme et les droits de l'homme, tout ce que les États-Unis représentent à tort. Aujourd'hui, grâce au passage à la multipolarité et au multilatéralisme, Washington n'est plus en mesure de menacer les entreprises non occidentales de coopérer avec des pays indépendants. Le Venezuela ne dépend plus de la technologie de raffinage occidental, le Nicaragua d'envahissants occidentaux ou Cuba des machines occidentales. La politique iranienne est totalement opposée à la politique états-unienne en Amérique latine ainsi qu'en Asie de l'Ouest. Elle n'est pas fondée sur l'exploitation, le chantage, l'isolement, les sanctions, l'ensemencement de la discorde, les menaces et la vision des États comme des plateformes d'agression militaire contre les pays voisins. Elle est basée sur le respect mutuel, l'intégration internationale et le partage du développement. C'est le secret des relations croissantes de l'Iran avec ces trois pays d'Amérique latine.